RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, il n'aura fallu qu'une toute petite semaine au rugby français pour retrouver le chemin de la gagne. Et oui, quelques jours seulement, après une fin de tournoi ratée, les équipes françaises ont rendu sourire et honneur à notre Ovalie de France en marchant sur l'Europe des clubs. 5 équipes françaises qualifiées pour les quarts de finale, c'est un nouveau record. Et le score aurait pu être encore meilleur si le PCR n'avait pas décidé de manière totalement injuste d'éliminer Toulon sur tapis vert. Et les victimes des clubs français, ce sont les mêmes qui nous ont tourmentés dans le tournoi, les Anglais, les Écossais, sur lesquels nous avons roulé ce week-end. Oh, quelle est belle cette revanche. Tout cela sans oublier le Munster, qui sans sa Red Army a perdu de ses couleurs. Les Irlandais, victimes du talent des jeunes Toulousains, les Dupont, Ntamack et autres Lebel, auteur d'un geste de grande classe qui lui vaut le titre de frelon de la semaine. Des matchs une nouvelle fois hachés menu par un excès de vidéo-arbitrage. On n'en peut plus de ces visionnages et revisionnages qui cassent le rythme et dont les arbitres raffolent. Pierre Amiche a décidé de sortir la boîte à gifles en direction des arbitres. Ça pourrait lui valoir quelques matchs de suspension, mais il n'en a cure, il n'a peur de rien. Les poteaux, qui à l'image de nos clubs sont en pleine forme, comme toutes les semaines, à commencer par Denis Charvet, qui se remet au bord de l'océan d'une fin de tournoi éreintante. Salut mon Denis.
Oui, exactement. Écoute, je suis en grande forme. Tout va bien. J'ai vu des grands matchs de rugby ce week-end.
Eh ben, tant mieux. Nous aussi. Et puis aussi, on atteint leur pic de forme. Je veux parler de Jeff Pacheco et Pierre Amiche. Salut.
Bonjour.
Les garçons.
Salut. Salut. Moi, je tiens à corriger. J'ai peur d'un truc. C'est le cholestérol. Voilà. C'est le seul truc qui me fait peur. Dans ta présentation, tu disais la peur de rien. Si, si.
Il a peur du cholestérol. Et celui-ci est en hausse. C'est derniers temps.
Heureusement qu'il y a un enchaînement.
En hausse.
La Rochelle, Clermont, Toulouse, le Racing et l'UBB unis. Comme les 5 doigts de la main, nos clubs ont roulé sur l'Europe du rugby ce week-end.
Et voilà, la belle France.
C'est fini avec la qualification de La Rochelle, 27-16 sur la pelouse de Gloucester. Ils ont livré un très gros match. La Rochelle donc qui se qualifie, premier club français.
Ah oui, la France qui est le beau pays.
Victoire historique du Stade Toulousain sur la pelouse du Munster. Score final 40-33, c'est un exploit majuscule.
Ah ouais, vive la France là, hein.
L'essai pour l'arrière de l'Est, Clermont-Auvergne.
Et Clermont qui mène 27-25 et qui se qualifie.
Vive la République, vive la France.
Voilà, week-end presque parfait qui m'en a fait perdre ma voix. Week-end parfait pour nos représentants qui étaient donc 7 à viser la qualif pour les quarts de finale. À l'arrivée, il en reste donc 5 après l'élimination sur tapis vert du RC Toulon et la défaite logique du Loup qui a malgré tout vendu chèrement sa peau face aux champions d'Europe d'Exeter. 5 clubs, dont 3 Anglais et un Écossais. Jeff, tiens, ceux-là même qui nous avaient tourmentés durant le tournoi en nous faisant goûter la poussière.
Hein. Ouais, et c'est quasiment un carton plein, tu le disais. 5 représentants, c'est du jamais vu à ce niveau. Voilà, puisque le record c'était 4 pour les clubs français, hormis Toulon éliminé sur tapis vert et Lyon, tu l'as dit, battu par Exeter, malgré un très bon début de match pour les hommes de Pierre Mignoni. Le reste, ça s'est très bien passé. C'est La Rochelle qui avait montré l'exemple vendredi pour le plus grand bonheur de Pierre Amiche, en gagnant contre Gloucester qui affrontera Sale en quart de finale samedi. Le lendemain, dimanche, ce sera un choc 100% français, puis un autre 100% encore franco-français. Ce sera d'abord l'UBB, tombeur de Bristol, qui recevra le Racing 92 qui a surclassé Édimbourg. Bon, vu qu'ils ont gagné 56-3 contre Édimbourg, on a quasiment gagné le tournoi à destination, hein, faut le rappeler. 21 points, là, on les a écrasés, les Irlandais. Et ça, l'UBB, maintenant, il y a des ambitions dans le club. C'est ce que confirmait le capitaine Jefferson Poirot en conférence de presse.
On est un peu, là, je pense, dans ces 8 dernières équipes, l'équipe sans pression. On est avec les grands, on est à leur table. Donc maintenant, il faut jouer le coup à fond et se régaler dans cette compétition. Il faut se libérer. Et maintenant qu'on y a goûté, il faut quand même continuer, quoi.
Ouais, il faut continuer quoi, sauf qu'en face il y a le Racing 92 et notamment Antoine Gibert, le jeune ouvreur de cette équipe, et il était interrogé. Christophe, c'était un très bon moment sur RMC, on l'écoute.
C'est un objectif qui est très très important, le Brennus aussi, hein. De toute façon quand tu es au Racing, dans tous les cas, tu veux gagner tous les ans les 2 titres. La Coupe d'Europe c'est un objectif qui est très très important pour nous, ça fait 3 fois qu'on passe à côté, on a encore en travers de la gorge la finale de l'année passée, donc ouais, on a envie de le faire et on va se donner les moyens pour le faire.
L'autre duel franco-français, ce sera dimanche à 16h, Clermont-Toulouse, un classique du top 14, désormais en Coupe d'Europe. Les Auvergnats n'ont pas été étincelants lors de la victoire face au Wasp, mais ils ont montré du caractère pour gagner la dernière seconde. Ce sera un choc top 14, et ça réjouit pas vraiment Morgan Parra.
C'est sûr, on préfère jouer des clubs anglais, irlandais, gallois. Maintenant, il n'y a pas le choix. Hein. Plus ça va avancer, plus ça va se resserrer. On voit que tous les clubs français sont en forme. Toulouse, La Rochelle, Le Racing, Bordeaux. J'aurais préféré une équipe étrangère, mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix.
J'étais sûr que ça allait le plaire, Christophe.
Voilà, oui. Des affrontements franco-français. Bon, bah, au moins, c'est l'assurance
d'en avoir deux en demi.
D'en avoir un ou deux en demi.
Deux en demi,
ce sera déjà pas mal. Et puis voir plus en finale. Alors, on évoquera dans quelques minutes le cas du Stade Toulousain, qui lui aussi est allé s'imposer à l'extérieur, à Limerick, où tant de clubs ont perdu par le passé leurs illusions. Mais un mot d'abord sur ce résultat d'ensemble, tout bonnement incroyable. Denis, comment tu expliques un tel feu d'artifice? Alors que, je me rappelle, la semaine dernière, tu nous disais que les internationaux étaient tous cramés, qu'ils étaient au bout du rouleau. On a vu avec les Toulousains notamment, et pas que finalement, ils étaient sur la lancée de leur tournoi et que la forme était là. Hein.
Ouais, mais la forme était là, mais il a fallu peut-être 3 matchs pour ce... C'était une illusion peut-être aussi de cette fatigue en fin de match. Je crois que les matchs étaient à haute intensité pendant le tournoi et que les joueurs me paraissaient émoussés, mais finalement c'est vrai qu'ils m'ont surpris ce week-end à l'image d'Antoine Dupont, de Jalibert, de Camicha. Enfin, Camicha, c'est...
Lui, il n'avait pas beaucoup joué, tu as raison. Ouais.
Pas que je dois, mais Julien Marchand qui a fait un match extraordinaire. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est très, très étonnant et j'ai du mal à y répondre, je t'avouerai. Mais en tout cas, bravo, chapeau à tous ces clubs français qui ont sublimé, qui nous ont vraiment fait rêver et qui se sont sublimés. Et sincèrement, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a trop de clubs français, mais en même temps, c'est la compétition cette année, elle est faite comme ça. Il n'y a pas de poule, il y avait des confrontations directes et finalement, ça nous va pas mal.
Et ça nous va pas mal parce qu'on bat un record, hein, Jeff l'a dit, mais c'est justement parce que c'est une nouvelle formule qu'on bat ce record-là. C'est-à-dire qu'on récolte ce que le PCR a planté, hein, le duel franco-anglais. Pour les huitièmes, on avait 7 équipes françaises et 5 équipes anglaises. Ça veut dire déjà que ça limite pas mal les chances des autres de pouvoir afficher un beau visage et d'avoir des équipes conquérantes parce qu'elles sont déjà vachement moins nombreuses. Et puis après, grâce à cette formule, on a aussi vu Exeter, par exemple, qui aurait jamais dû sortir des poules, qui est aujourd'hui un des favoris pour la Coupe d'Europe, qui a éclaté une équipe française. Et puis sur les matchs, moi, personnellement, j'ai trouvé que globalement, les équipes françaises, elles avaient vraiment de la maîtrise. Et ça, c'est assez nouveau, finalement. C'est-à-dire que souvent, à l'échelon européen, on a été indisciplinés ou on faisait des grosses bêtises. Et ben là, j'ai l'impression que les équipes françaises sont un peu plus matures que les années précédentes. Et ça, c'est vachement bien. Et on sent que les joueurs majeurs, ben, ils sont à leur sommaire. Tu vous l'avais dit. J'ai regardé rapidement. Hein. Jalibert, Dupont, Ntamack, Vakatawa, Thomas, Penaud, ils ont tous fait des grands matchs. Et quand les meilleurs joueurs font des grands matchs, c'est plus facile de les gagner.
Et même quand il n'y a pas de maîtrise, on voit Clermont qui était en difficulté, qui a souffert en conquête. Et là, c'est peut-être l'expérience d'un Morgan et d'autres anciens comme Camille Lopez qui ont réussi à pas s'affoler, à faire la différence, alors que Clermont n'a pas vraiment été étincelant encore.
Et puis un dernier facteur, hein, c'est qu'on a le championnat le plus riche et que ça se ressent aussi un petit peu sur la qualité des bancs. Regardez les bancs de mutants qu'on a avec La Rochelle, Clermont, Toulouse et Bordeaux. Ouais. Vous pouvez regarder, c'est que des internationaux ou quasiment que des internationaux. Mmh. Ce que les autres formations ne peuvent pas afficher, hein, les Gallois, les Écossais, les Irlandais, souvent ils ont 15, 17, 18 très bons joueurs, mais vu que ça se joue dans les derniers instants.
Les Irlandais, les deux équipes irlandaises, ce sont quand même d'un côté la moitié de l'équipe d'Irlande et de l'autre côté l'autre moitié.
Mais ça fait que 7 joueurs. C'est-à-dire que derrière, il faut en trouver 8 autres qui sont pas forcément du même niveau. Le Munster a un 15 de départ extraordinaire, mais ils ont un banc qui est un peu plus faible. Et le Leinster, on peut pas juger, ils ont pas joué.
Et tu soulèves aussi aujourd'hui ce problème-là, qui est de banc, qui fait souvent les différences en fin de match. Les rencontres, tu regardes les rencontres de l'UBB, de Toulouse ou de Clermont, mais c'est quand même dans les 3 dernières minutes.
Et encore une fois, comme pendant le tournoi, c'est vrai qu'il y a eu plein de matchs qui ont été hyper disputés jusqu'à la fin, et ça s'est joué juste avant la sirène. Ou juste après.
Et la bonne nouvelle, c'est que Jonathan Sexton n'a pas fait de commotion du coup ce week-end.
Mauvaise langue.
Dans les clubs français, évidemment, il n'y a pas que des joueurs français, mais quand même, une grande majorité, notamment avec cette règle des gifs qui s'est amplifiée depuis quelques saisons. Et est-ce que c'est une preuve, une nouvelle preuve, Denis, pour toi, de la forme retrouvée de notre rugby quand même? Même si la semaine dernière, là aussi, on était un peu inquiet, finalement, et moins enthousiaste que les semaines précédentes.
Tu sais, je te réponds facilement, c'est une règle qui porte ses fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que il a fallu un peu de temps pour qu'elle s'installe dans les clubs et aujourd'hui effectivement tu as raison, les gifs font pas la différence mais presque, et on voit des jeunes talents que parfois ils n'arrivaient pas à éclore, qui aujourd'hui ils arrivent à prendre toute leur dimension parce qu'ils peuvent jouer. La vérité c'est que les jeunes peuvent jouer dans tous les clubs et donc ça permet de voir des Moefana, c'est ça,
Moefana, t'étais pas loin,
Moefana, des joueurs comme ça qu'on n'attendait pas et qui,
ou Gibert.
Gibert, enfin il y a plein.
Au Racing, il y a un changement de politique qui est total.
C'est le Stade Toulousain, le Bel qui a été extraordinaire. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de joueurs qui arrivent. Tu as raison de le noter. C'est incroyable, mais ça veut dire que
ils n'ont pas le choix. Parce que le salary cap va continuer à baisser dans les clubs de top 14. Donc forcément, il faut faire confiance aux jeunes. Et si vous leur faites confiance régulièrement en top 14, vous les mettez en Coupe d'Europe. C'est ce qu'a fait le Racing et ça fonctionne bien.
et notamment en première ligne, où par le passé, on a eu des gros problèmes parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui jouaient à ces postes-là, et donc la formation, eh bien, elle n'arrivait pas à arriver à son terme. Là, on voit des Bailly, on voit des Aldeguerri, on voit des Marchands, on voit des... Enfin, il y a tellement de... Il y a pléthore en première ligne,
oui,
maintenant.
Colin Gard, Benarous, enfin, il y a beaucoup de première ligne français, alors qu'on savait qu'on était sinistrés au poste de pilier droit, notamment. C'est vrai que c'est match de Coupe d'Europe.
Bamba, tu notes pas Bamba qui est blessé, mais oui, bon, c'est incroyable le réservoir que l'on a.
La formule, est-ce que moi j'ai, pour tout vous dire, j'ai été séduit parce que j'adore ces matchs à la Muerte qui se déroulent comme ça sur 80 minutes où tu sais que c'est stop ou encore finalement, et du coup ça donne des matchs très enlevés. On assiste rarement à ce genre de match en top 14 où tout est une histoire de calcul. On a le même genre de choses dans le tournoi, mais c'est bien aussi. Est-ce que ça serait pas une idée justement pour l'avenir du rugby, l'avenir de cette Coupe d'Europe, en tout cas on cherche des dates.
Pour la formule de la Coupe d'Europe.
Le problème c'est les dates, non ?
Bah oui, mais non, mais tu réduis le nombre de dates.
En fait, dans la formule que voulait adopter le PCR pour la Coupe d'Europe, le PCR c'est l'organisateur de la Coupe d'Europe, c'était de faire par exemple des demi-finales aller-retour sur le même système que le foot pour que ça ait encore plus de ressemblance avec une Ligue des Champions en foot. Ça peut être une bonne idée aussi.
Pas mal, hein.
Mais il faut réduire le nombre de dates avant. Là, il faut rappeler qu'il y a eu juste les deux premières journées qui ont été disputées de la phase de poule. On est passé directement en huitième de finale. Pierre l'a dit, de voir Exeter en quart de finale alors que le champion d'Europe en titre n'avait pu jouer à Toulouse en phase de poule. Ils avaient joué un seul match les Anglais. Ça fait bizarre de les voir en quart de finale. Mais quand vous voyez, par exemple, que cette équipe d'Exeter va affronter le Leinster, c'est un choc majuscule et toutes les affiches-là sont quand même super alléchantes. Ouais.
Moi, je suis plutôt content que le Exeter soit encore dans la course. Ils sont champions d'Europe. Ils ont écrasé l'Europe la saison dernière. Mais même si, effectivement, comme tu le disais, Pierrot, ils n'ont gagné qu'un match. Mais enfin, c'est quand même bien d'avoir aussi les plus belles écuries qualifiées pour les quarts de finale.
La problématique, Christophe, c'est quand même, on le sait, la lisibilité de cette Coupe d'Europe. Donc la problématique, c'est qu'il y a un premier tronçon avec des matchs de poule et souvent c'est très très long.
Ah oui.
Et après on bascule.
Là, c'est simple, tout le monde peut comprendre là.
Mais
si
oui,
c'est
non, mais c'est pour ça que moi je suis comme toi, je suis ton avis. Moi j'ai adoré.
Solution.
J'ai adoré ce week-end, je trouve que c'est alléchant, c'est palpitant, et tu as raison qu'il y a peut-être à repenser cette Coupe d'Europe.
Il y a peut-être une solution qui est toute bête, c'est d'arrêter de vouloir faire croire qu'il y a 24 équipes de haut niveau en Europe. Aujourd'hui, on peut très bien réduire à 16 en limitant le nombre d'équipes françaises, anglaises, et en donnant un peu plus de visibilité à cette compétition en n'ayant que des gros matchs.
Tu oublies une chose. Les droits de télé, le fric.
Exactement.
Exactement. Plus tu réduis les dates, plus tu réduis la billetterie et les droits de télé.
Mais tu le sais aussi, Jeff, c'est qu'aujourd'hui, 50% du gâteau est partagé entre les Français et les Anglais, 50% entre tous les autres. Ouais, moi, à la place des autres, je commencerai à faire un peu la gueule,
si
parce que les Irlandais...
Si temps habituel, c'est vrai que ça fait des matchs en plus à la maison, ils en ont absolument besoin. Quoi.
C'est sûr, mais on peut pas d'un côté râler sur les dates parce qu'on en a trop, et de l'autre râler sur les sous parce qu'on en a pas assez. Va falloir faire un choix.
Faire un mix
et peut-être qu'en plus, les droits télé de la Coupe d'Europe avec que des matchs de haut niveau, ça ferait que les droits télé pourraient augmenter, parce que là, aller voir des Trévis Castres ou des... Moi personnellement je m'en moque complètement, je suis pas très sensible à la Coupe d'Europe, mais si en plus pendant 4 mois on a que des matchs en bois et des matchs où finalement on calcule le 6ème du meilleur 3ème de machin, il y a des façons très simples de réduire la complexité de cette compétition qui est quand même à la base très simple.
Ouais. Alors on va revenir au sportif, mis à part l'exploit toulousain dont on va parler dans un instant, quelle est la performance majuscule que vous retenez en priorité, le match qui vous a le plus plu et la performance française peut-être. Ouais, Denis.
Pour moi c'est Bègles Bordeaux. Toulouse, oui.
Toulouse, Bristol, on rappelle, leader du championnat d'Angleterre.
Le leader anglais, et quand tu vois le match, la physionomie du match, ils se sont payés, mais c'est quand même, ils sont allés chercher au fond d'eux-mêmes, parce qu'en défense, ils ont été héroïques face à une équipe anglaise qui est assez redoutable, hein, on l'a vu sur ce match. Voilà, chapeau à eux, ils ont fait le job une semaine après la déconvenue du match contre La Rochelle à domicile. Voilà, ils m'ont impressionné, franchement, je n'attendais pas du tout à ce niveau-là, à l'image d'un Jalibert qui a été transcendant, mais qu'on connaît déjà.
Ouais, on reparlera de ce match parce qu'il y a eu aussi un autre fait, c'est les vidéo-arbitrages qui ont été incessants et interminables.
Le Racing va falloir les cogner encore, hein, parce que les hommes de Laurent Travers, ils ont l'habitude de la Coupe d'Europe, c'est vraiment l'objectif pour eux. Hier, c'était pas une grande équipe d'Édimbourg, c'était pas l'Écosse, mais on voit que cette équipe du Racing ça s'affole pas, marque 7 essais, il y a des jeunes, il y a des Finn Russell qui est pas là quand il va revenir peut-être pour une demi-finale. Il y a vraiment une équipe solide qui est taillée pour jouer l'Europe.
Moi c'est clairement pour le scénario et La Rochelle pour la maîtrise. Non vraiment, c'est pas du tout partisan.
Non, c'est
le scénario Clermontois, il est exceptionnel, on a vibré, c'était chouette et c'est pour ce genre de match qu'on regarde la Coupe d'Europe. Et La Rochelle, l'écart est pas énorme, mais honnêtement, ils ont explosé Gloucester. C'est-à-dire que quand on voit le match de Vito, de Skelton, de Botia, de Gourdon, les cadres Rochelais sont en train de revenir
Botia
au top.
Et...
Et là, ça fait mal. Botia, c'est redonu Botia, le monstre Botia. Hein. On est loin du gars qui s'est fait deux fois les croisés, là. Il redevient très, très, très costaud.
Vous vous rendez compte qu'on ne parle pas de Toulouse, qui a
quand même fait l'exploit. Parce que moi, c'est le match que je retiens, évidemment. C'est l'exploit du week-end. Parce qu'aller gagner à Limerick, sur ces terres qui ont jusque-là toujours été hostiles au club français. On rappelle que le Munster restait sur 16 victoires d'affilée en Coupe d'Europe sur son terrain. Donc, c'est un exploit majuscule d'être allé s'imposer là-bas. Alors. Évidemment, le Munster sans la Red Army, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ce public très chaud qui pousse derrière son équipe, vraiment jusqu'à la dernière seconde. Est-ce que pour vous, l'absence du public explique le résultat, Pierre ?
Je sais pas s'il explique, mais en tout cas, quand on sait ce que c'est Limerick, juste pour les auditeurs qui connaissent pas forcément ce que c'est, bah Limerick, c'est très facile. C'est une tribune entière qui rugit à chaque maul qui avance, qui exulte dès qu'il y a un plaquage offensif. C'est 25 000 personnes contre 15 joueurs. C'est exceptionnel. Et puis eux, ils ont une tradition ancestrale du combat, de la vaillance. Eux, leur héros, c'est pas des trois quarts à la Denis Charvet, c'est des Paul O'Connell, c'est des Follet, c'est des Duromal, des dégueulasses.
Et ça, c'est le rugby que t'aimes.
Ah, ouais, c'est le rugby un peu de terroir. Mais il y a une tradition de ça, et quand on va se frotter aux avants du Munster avec la tribune, la Red Army qui pousse derrière, c'est très dur de gagner. Ils ont perdu que deux fois dans leur histoire en Coupe d'Europe à domicile. C'est ce qu'a fait Toulouse, c'est colossal.
Thomond Park, quand c'est plein, c'est quand même quelque chose de différent. C'est sûr qu'il y a un supplément d'âme qu'ils n'ont pas eu, mais quand même gagner là-bas son public, c'est historique et c'est vraiment un message très fort pour la suite.
Oui, parce qu'en fait, la physionomie du match, c'est vrai qu'il gagne à l'arrivée de 7 ou 8 points, mais c'était très serré. Il a fallu un arbitrage vidéo sur un en avant, sur une tête qui était pas qui faisait pas office d'en avant. Mais c'était tellement serré ce match, tellement crispant que, évidemment, Christophe, tu as raison de parler du public, parce que avec un stade plein, qu'on le sent, moi j'y suis allé au Munster, dans ce stade-là, en tant que spectateur, c'est impressionnant. Quoi. J'ai rarement vu une union sacrée entre une équipe et un public. Il y a une osmose incroyable. Et c'est vrai que ça peut jouer en fin de match. Ça peut déstabiliser une équipe. Et là, Toulouse a fait preuve de maîtrise en fin de match. Ils ne sont pas affolés. Et c'est là où ils ont été très performants, parce que face au Munster, qui était très fort devant, hein, on l'a vu avec Conor Murray à la mêlée, qui était à la baguette et qui a fait un grand match, c'était très compliqué de l'emporter. Et ils l'ont fait. Et chapeau à eux, parce que vraiment, c'était pas évident.
Des Toulousains sans complexe, à l'image du jeune ailier Mathis Lebel, auteur d'un essai et d'une passe décisive à destination d'Antoine Dupont après un formidable geste offensif, un tchic-tchac d'école qui lui vaut le titre de frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Alors Pierrot, toi, les inter-exter et les 4 deb, c'était ton truc, hein, je m'en souviens, lorsque je venais de voir jouer quand j'étais petit. C'est vraiment ta marque de fabrique.
C'est mon spécial.
Mais ce petit Lebel, là, c'est quand même un sacré client de ce côté-là.
Ouais, hein. Rigolez, bande d'ignares. Mais oui, c'est simple, Christophe, en 6 mois, Lebel, il est passé du statut de joueur en devenir à celui d'avenir du rugby. Rien que ça, double champion du monde des moins de 20, on connaissait son potentiel, et bien on apprend à découvrir son talent. Il a d'abord gagné sa place malgré une concurrence énorme dans le club champion de France, Toulouse. Les chiffres sont affolants. 18 matchs, 13 essais cette saison. Des chiffres et surtout une impression, celle de facilité confirmée de match en match face au Munster. Comme un ailier, il marque, comme un Toulousain, il fait marquer. Alors qu'est-ce qu'il préfère ? Julien Richard lui pose la question.
Sur les deux, en tout cas, je prends du plaisir quand je peux rendre service à mon équipe et quand je peux apporter quelque chose à l'équipe, donc je retiendrai les deux.
Eh oui, prendre du plaisir, tout l'inverse de ses adversaires. Ses qualités qui commencent à être connues de tous et surtout de toutes les défenses. Explosivité, créativité, une capacité à finir les actions sans forcer, de quoi attirer les regards de ceux qu'ils ne connaissaient pas encore. En revanche, ceux qui le voient évoluer chaque semaine, eux, ne sont pas étonnés. Illustration avec Romain Ntamack.
Ah oui, moi je suis pas étonné parce que je joue avec lui depuis qu'on a, je pense, 11 ou 12 ans. On joue en mini, depuis qu'on est en mini, on joue ensemble. Donc, il en étonne plus d'un, mais moi il est loin de m'étonner parce que je le connais. Et encore une fois, chaque week-end, chaque sortie, il prouve qu'il est un très bon joueur et qui va devenir un très grand joueur. Donc voilà, il est dans la lignée des grands ailiers du stade. Il nous a encore montré toutes ses qualités de crochet. Il a encore fait marquer Antoine, il marque un essai. Donc voilà, il est dans la lignée de sa saison et je pense qu'il apporte vraiment quelque chose à cette équipe, donc je suis très content pour lui.
La progression linéaire de l'ailier de 22 ans pousse même à se poser la question, a-t-il désormais sa place au sein du 15 de France ? Lebel, invité des RMC, préfère pour une fois prendre son temps.
Ça serait un rêve. Après, je sais que qu'il y a des étapes à franchir, à pas brûler. Une tâche assez compliquée, c'était de réussir à enchaîner les matchs au Stade Toulousain, rentrer dans l'effectif, y mettre ma patte, apporter quelque chose au collectif du Stade Toulousain avec la concurrence qu'il y a au stade et surtout au poste auquel je joue. Après, ben forcément, on a envie de rêver à plus grand. Déjà, ben, y a des étapes à franchir, comme je vous dis. Il y a aussi une concurrence au niveau national avec de super élites en France. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête non plus avec ça pour le moment.
Brillant avec Toulouse, dominant sur la scène continentale, il reste désormais une marche à franchir pour le jeune Toulousain et non des moindres, hein, convaincre Galtier et son staff de lui donner sa chance avec le maillot tricolore.
Eh oui, on espère pour lui évidemment, mais c'est vrai qu'il se positionne. Il avait déjà d'ailleurs été appelé, hein, Jeff me semble-t-il.
Appelé mais pas joué, il avait pas joué pour la Coupe d'automne des Nations et c'était à ce moment-là que Hugo Mola, son entraîneur, avait dit il sera international dans pas longtemps, il sera international pendant longtemps. Et c'est vrai qu'il a le profil pour jouer longtemps en équipe de France, mais il n'a pas encore de sélection.
De la lignée, disait Romain Ntamack, dans la lignée des grands ailiers du stade, tu confirmes, toi qui as été un grand centre du stade, Denis.
Bah évidemment, mais surtout quand on voit ce gamin-là éclore depuis quelques week-ends, voire quelques mois maintenant, parce qu'on ne le découvre pas vraiment, il a tellement fait d'exploits depuis plusieurs matchs, mais c'est vrai que ça ce qu'il fait hier, là, son geste technique, et ça fait longtemps, très longtemps que je n'ai pas vu le faire par un joueur, hein, mais quel qu'il soit d'ailleurs.
Il a cassé les reins de son adversaire.
Mais même un joueur étranger, quoi, voilà, c'est un geste technique incroyable, donc il le fait en pleine vitesse comme ça, et voilà, mais non, mais il a pas que ça, quoi. Il a tout pour réussir. Je crois qu'il a été pris avec le squad, hein, il me semble déjà.
Hein. Oui, c'est ce que disait Jeff.
Donc voilà, il a plus qu'une une marche à franchir, mais il va la franchir. Il va être mis en concurrence par Fabien Galtier très prochainement, sûrement à l'occasion de la tournée en Australie. Ça serait l'occasion même pour lui de montrer ses qualités. Et voilà. Mais quand tu joues la Coupe d'Europe et que tu joues à ce niveau-là, c'est comme si tu jouais un match international. Donc voilà, l'avenir est tout tracé pour lui, je l'espère.
D'autant qu'il juste pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même dommage qu'ils n'aient pas l'image, parce que quand Christophe essaye de faire Mathis Lebel sur sa chaise...
La chaise à peu. Non, mais c'est énorme, non, parce que je regardais Pierrot qui faisait la même chose, il faisait des tac-tac.
D'ailleurs, il a expliqué son geste, Mathis Lebel.
Quand je fais un appui, le terrain s'écroule.
Mathis Lebel, il a expliqué son geste. Hein. Il a expliqué qu'il a compris au bout d'un moment que le défenseur anticipait sur un retour intérieur, et donc feinte intérieure, crochet extérieur, ça va très vite, et ses qualités parlent. En revanche, ce qu'il faut dire aussi de Mathis Lebel, c'est qu'il est parfaitement mis en valeur par le système toulousain. C'est qu'aujourd'hui, c'est un ailier finisseur qui est capable de faire des grandes différences en 1 contre 1. On sait que les Toulousains visent les zones des 15 mètres en faisant du large-large et que ça crée des différences et des décalages. Mais peut-être que dans un autre système, notamment celui de l'équipe de France, où on sait que le jeu prôné, c'est un jeu de dépossession, est-ce que Mathis Lebel sera capable d'être solide sous les ballons, fort en défense avec des montées inversées? Bah, faut le tester pour savoir. Moi, personnellement, j'ai un tout petit doute, d'accord, pas sur son talent ou sa qualité, mais sur sa capacité à s'intégrer dans un nouveau système qu'il ne connaît pas encore et surtout sur une tournée qui s'annonce redoutable en Australie.
En revanche, à Toulouse, on se posait la question de savoir si Teddy Thomas allait gagner les rangs du Stade toulousain, mais avec des joueurs de ce niveau-là, est-ce que ça vaut la peine de recruter un joueur qui...
Oui, parce que t'as besoin de concurrence au Stade toulousain, il y a Colby qui peut jouer arrière, Max Médard qui a encore une saison, mais voilà, t'as quand même... Il te faut des joueurs, donc Teddy Thomas il sera.
Et puis il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore.
Moi j'ai même cru qu'il allait au Japon, mais c'était un poisson d'avril.
C'est un poisson d'avril.
Il a cru, il dit mince, quand même, Teddy Thomas au Japon, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Il avait une offre du Japon.
et autre joueur qui dans la même catégorie d'âge ou à peu de choses près, qui est extrêmement talentueux et qui aujourd'hui s'est fait largement passer devant par Mathis Lebel, alors qu'il avait été un temps évoqué en équipe de France, c'est Tauzin, qui a complètement disparu côté toulousain.
Il était blessé aussi. Hein.
Qui va avoir du mal à reprendre sa place, parce qu'aujourd'hui Mathis Lebel fait des gros matchs, et ça fait partie aussi de cette génération assez exceptionnelle, et quand Thomas Ramos et Maxime Médard reviendront tous les deux à 100%, surtout Thomas Ramos à l'arrière, Colby à une aile et Lebel à l'autre, ça commence à foutre un peu de frisson dans les défenses.
Lebel, Dupont et les autres qui iront donc défier dimanche prochain à 16h l'AS Clermont-Auvergne. Ce sera le dernier des quatre quarts de finale. Auparavant, il y aura donc eu La Rochelle-Sale samedi à 16h. Exeter, Leinster, finale.
Ça
ressemble à une finale le même jour à 17h30. Et puis UBB Racing dimanche à 13h30. Elles ont vraiment de la gueule ces affiches, même si on peut regretter deux affrontements franco-français, mais avec cinq qualifiés, c'était difficile de faire autrement.
On a qu'à être nul, hein. Hein, on n'a qu'à être nul.
C'est, on a, c'est ça, si on avait été dégueulasse, on n'aurait eu aucun Français.
Ouais. C'est vrai que le frisson n'est pas le même. Quand tu joues une équipe anglaise, quand tu sors une équipe anglaise, c'est...
Quand t'es supporter, je pense que tu t'en fous.
Oui, mais nous, on n'est pas supporter.
Oui, oui, bien sûr.
Christophe, et en plus, la Rochelle se mêle à la course, au titre, tu vois. C'était pas prévu, ça non plus.
Ouais. Oh, c'était pas prévu par les néophytes comme vous, par ceux qui connaissent pas le rugby.
Il a mis du temps à réagir, quand même.
Ouais. Oui, il a mis du temps à réagir.
Je me suis dit, je savais pas où il voulait aller.
Pas très vif, c'est le cholestérol, ça.
Non, mais le gigot, si tu veux, il est pas encore passé, là, pour
vous rigolerez pas quand je suis en slip sur les champs avec le bouclier de Brennus avec 100 000 Rochelais.
Alors, petite incertitude, j'ai pas bien compris ce qui allait se passer ensuite pour les demi-finales, mais Jeff, toi qui sais parler le langage le PCR, tu vas nous expliquer. Tirage intégral, ou alors on va juste tirer le terrain.
Tirage intégral.
Tirage intégral. Tirage intégral. Donc on prend les noms des quatre et
les,
on.
Les tableaux que vous voyez dans
touille.
Parfois les tableaux que vous lisez dans la presse, bah faut pas les lire parce que ce sera un tirage intégral effectué le 11 avril pour la Champions Cup, pour la Challenge Cup. On saura alors qui reçoit contre, qui joue contre qui. Tout simplement, c'est un tirage intégral le 11 avril, c'est-à-dire dimanche. Après ses huitièmes de finale, après ses quarts de finale.
Le PCR qui rend une copie propre, hein, même si l'organisateur de la compétition a très mal géré le cas toulonnais éliminé sur tapis vert pour un cas de Covid. Les Toulonnais très remontés, on peut les comprendre. À l'automne, on les avait sanctionnés pour avoir refusé de jouer un match face à un club qui comptait plusieurs cas de Covid. Entre cette fois-ci, c'est l'inverse. Et ce sont toujours les mêmes qui sont sanctionnés. Ils payent, vous pensez, leur rapport difficile avec la société organisatrice. Enfin, ça dépendait pas de Monsieur Lemaître, mais c'était plutôt à l'époque de Bougella, Jeff.
C'est compliqué parce qu'on a posé la question vendredi à Bernard Lemaître et il était un peu embêté, il savait pas trop s'il y avait pas des effets collatéraux de l'époque Mourad Boudjel. C'est sûr que c'est toujours tendu entre le RCT et le PCR. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que le fait que le RCT ait match perdu parce qu'ils ont un cas de Covid, ça peut s'entendre, c'est le règlement, c'est comme ça. La chose qui est choquante, c'est que Toulon s'est envolé vers Dublin. Ils ont eu l'autorisation de partir.
Après, a priori, c'est le gouvernement irlandais qui aurait décidé au dernier moment.
C'est ce que dit Bernard Lemaître. En fait, à ce moment-là, dès le mercredi, dès qu'il y a un cas positif, il faut que le match soit reporté
ou annulé.
Mais il n'y a pas de report, donc ce sera forcément une annulation. Bernard Lemaître avait proposé de le jouer en France, ça n'a pas été accepté, et le gouvernement britannique et les autorités britanniques n'ont pas voulu prendre de risques. Mais le faire voyager pour rien, c'était quand même d'une imbécilité énorme.
Ça fait deux fois en plus.
Le président Lemaître, très remonté, qui envisage de ne plus faire participer son équipe à la compétition, moi, à mon avis, ce serait un mauvais calcul. Ce serait punir lui-même sportivement et financièrement.
Il avait déjà dit ça après l'escalade au mois de décembre.
C'est impossible.
Il a dit ça sur le coup de la colère.
C'est comme Sergio Parisse qui a appelé au boycott de tous les clubs français de la Coupe d'Europe. C'est des grands principes, mais c'est compliqué à mettre en œuvre.
Oui, ou alors ils n'ont rien compris à comment fonctionne un club au niveau des recettes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là,
ça rapporte de l'argent.
Ça rapporte des sous.
En droit télé. Ouais.
Bah oui, en droit télé, ça rapporte des sous et je vois pas comment ils feront sans.
Alors, autre tâche sur ces huitièmes de finale, le vidéo arbitrage qui a gâché bon nombre de matchs, dont celui qui opposait l'UBB à Bristol. Et ça, ça a eu le don d'exaspérer notre Pierrot national.
RMC, entre les poteaux,
la boîte à gifles.
Pierrot, tu sais qu'on n'a pas le droit de gifler les arbitres, c'est interdit. Tu as été joueur. Voilà, il faut que tu te restreignes. Je sais que pourtant, c'est pas l'envie qui t'en manque. Hein.
Non, là, j'avais pas envie de les gifler, mais de les savater. Parce qu'hier, on a vécu le match le plus long. Et ouais, Bordeaux-Bristol, durée du match 2h10, ressenti 3 semaines et demie. Et pour ça, on peut remercier le duo de l'enfer, Mike Adamson, Neil Patterson, l'arbitre central et l'arbitre vidéo. Ils sont encore plus chiants que Vitaï Sliman et encore plus nuisibles que Templier Paturo. Adamson Patterson, c'est Dub & Humber à la tête de la NASA. Récapitulons un peu les sévices. Hein. 26e minute du match, plaquage dans la règle sous les yeux de l'arbitre central, vidéo quand même. Hein. Depuis la tribune latérale, on voit qu'il n'y a rien, mais vidéo. 45e minute, essai de Bordeaux validé après 12 heures de vidéo filmée depuis l'espace. On voit rien, alors dans le doute, on valide. 52e minute, essai refusé de Bristol, alors que l'action se passe à 1 mètre de l'arbitre de touche. Je rigole pas, c'est pas une figure de style, c'est à 1 mètre de l'arbitre de touche. Vidéo quand même, on attend 2h30 et finalement, essai refusé. Et puis là, c'est la bascule. La star du match, le TMO, sent qu'il a bien le match en main et il décide donc de le saccager. Attention, tout va très vite. 68e minute, il s'auto-saisit. Il appelle l'arbitre central. L'arbitre central, il panique, il sait pas quoi faire. Alors il siffle, on revoit les images et c'est le malaise. Hein. Il cherche la faute, il n'y a rien. Bon, c'est sûr que si on regarde un match image par image, on finit par trouver un truc. Et donc il trouve carton jaune contre Douglas. Et là, c'est le festival du sgeg. 70e minute, essai de Bordeaux. Mais vidéo, et là, attention les yeux. Hein. On revient sur un éventuel en avant. 24 temps de jeu et 80 mètres plus loin. À un moment, il a hésité à annuler l'essai pour un en avant de Poirot en novembre face à Castres. Il s'est dit que ça passerait pas. Alors il accorde l'essai. Mais le chef-d'œuvre, la chapelle fistine de nos cortex éminus, c'est la 72e minute, il y a un plaquage un peu rude sur le demi-mêlée remplaçant de Bristol, épaule dans la boîte à gants et tout, mais le TMO appelle l'arbitre central 4 minutes après la brutalité. 4 minutes, hein, et on repart pour un tour de grand 8, vidéo, erreur, vidéo, erreur, vidéo. Et là, c'est un énorme coup de cul pour l'UBB parce que la moitié des joueurs sont en détresse respiratoire. Bristol peut revenir dans le match, mais notre coupe magique, il va tuer tous les espoirs des Anglais. Hein. Le mec qui est sorti le plus rincé du match, c'est le réalisateur. À force de faire des ralentis, il n'en pouvait plus, et ça, ça me rend fou. Un match de plus qui donne envie de revenir à des matchs à l'ancienne. Hein. On coupe les lumières, chandelles, bagarres, morsures. On n'en veut plus des vidéos de 4 plombes. On n'en veut plus des mecs qui décident de sortir d'un match dans une salle de télésurveillance. On n'en veut plus des arbitres qui ont plus peur de faire une erreur que peur de tuer le match. Et on n'en veut plus de tout ça. Alors bravo à Bordeaux, hein, mais désolé pour eux. Celui qui a peur est un peureux et la victoire aura été éclipsée par deux poltrons.
Voilà qui est fait.
C'est vrai,
tellement
juste.
Je suis complètement de l'avis de Pierre.
C'est votre côté réactionnaire, c'est parce que j'ai dit le rugby à l'ancienne avec des marrons.
Ce que dit Pierre est tellement juste dans la mesure où on peut voir toutes les fautes possibles si on a envie de les voir. Si on décortique tout, on va tout voir. Mais c'est pas il n'y a aucun intérêt dans cet arbitrage-là. C'est honteux. Mais moi, j'ai trouvé ça honteux.
La bonne nouvelle, c'est que cet arbitre n'arbitrera pas lors des quarts de finale.
Ouais. Voilà. D'accord. Mais est-ce que à terme, il n'y a pas des réformes à prendre, des réformes à faire, Jeff, Denis, Pierre, pour essayer de limiter tout ça? C'est pas possible qu'on revienne 24 temps de jeu en arrière, quoi. C'est inimaginable.
Mais la réforme, elle viendra de l'EPCR. Hein.
De l'EPCR ou
rugby
qui doit.
Mais surtout, avant de faire des réformes, appliquons pour de vrai les règles. Les règles, c'est pas de pouvoir revenir à 15 temps de jeu avant ou de faire appel à la vidéo 4 minutes après une brutalité. S'ils pensent qu'il y a brutalité, eh bien coup de sifflet, on vérifie à la vidéo, il n'y a rien, on repart sur une mêlée à Bordeaux, il y a quelque chose, on sanctionne le joueur de Bordeaux.
T'as l'impression qu'ils ont trop peur de se tromper.
C'est ça, c'est qu'ils ont tellement peur de faire une connerie qu'ils acceptent de pas prendre de décision, alors pas dans l'immédiat, après on regarde, on vérifie, on analyse. Le rugby, c'est aussi un sport de combat. Faut accepter qu'il y ait des gestes qui soient pas toujours dans la règle, mais sans être graves et sans être brutaux. Et surtout, faut accepter que le rythme du match, le temps du match, c'est 80 minutes. Faire des matchs de 100, 110 minutes, 120 minutes. Vous vous rendez compte maintenant, une mi-temps de rugby, c'est une heure. Une heure. On multiplie les chances de blessures de manière exponentielle. C'est-à-dire que 40 minutes multipliées par le nombre de matchs dans la saison, mais vous vous rendez compte le temps que passent les joueurs sur le terrain à rien faire. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ils ont tué le match. Voilà. Moi, ils m'ont niqué mon plaisir.
On a un président quand même de la fédération que je connais bien, mais qui est vice-président de la World Rugby. Il pousse dans ce sens-là, croyez-moi, en coulisses, et il veut notamment que quand un joueur avec un amas de joueurs va dans la butte, mais qu'il n'y ait pas des joueurs dessous, qui a un bras, mais accorde l'essai, voilà.
D'accord.
Qu'on arrête d'essayer de regarder s'il y a un doigt sous le ballon.
Ouais, enfin, je suis en train de là aussi. On en a parlé pendant le tournoi, moi je suis d'accord avec ça aussi. Bref, on verra ce que font nos chers dirigeants du rugby français et international. Avant de siffler la fin d'Entre les poteaux, un petit côté fermé pour terminer.
RMC, Entre les poteaux,
côté fermé.
Jeff a bien bossé, même ce week-end Pascal, il a plein d'infos à nous donner, des infos qui concernent notamment le Stade français, Jeff.
Ouais, le Stade français qui vit une saison moyenne pour l'instant sur le terrain, puisque les Parisiens sont 9e, eux qui visaient une place dans les 6 pour le retour de Gonzalo Quesada à la tête de cette équipe parisienne. Il faut rappeler que les dernières saisons avaient été aussi difficiles. Et ça bouge en coulisses, d'abord dans le staff, puisque Xavier Garbajosa pourrait arriver dans l'encadrement parisien dans quelques semaines, en fin de saison, non pas a priori pour prendre la place de Gonzalo Quesada, mais pour travailler aux côtés de Gonzalo Quesada. Ce serait un renfort évidemment de poids pour le Stade français. On rappelle que Xavier Garbajosa est libre depuis son éviction de Montpellier il y a quelques semaines en début d'année. Est-ce que ça pourrait fonctionner, un duo comme ça avec deux profils de manager? C'est une vraie question. Est-ce que c'est pas risqué aussi pour Gonzalo Quesada lui-même? Et l'autre information qu'on peut vous livrer aussi, une information MC Sport toujours, c'est qu'il y a eu un accord il y a quelques jours pour Clément Castet, le Toulousain, le pilier gauche. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Stade français, parce qu'ils avaient vraiment, c'était leur priorité de trouver un joueur compétitif de haut niveau. À ce poste-là, ils sont en difficulté et Clément Castet jouera pour les 4 prochaines saisons au Stade français.
Super joueur, joueur et super nouvelle pour le Stade français. En plus, il peut jouer à droite aussi, il l'a déjà fait. Et on connaît un petit peu son histoire. En fait, à l'époque où il était moins de 20, il avait été diagnostiqué, il avait une tumeur dans le cerveau, il a été opéré, il a mis 2 ans à revenir et il est aux portes de l'équipe de France. Le problème, c'est que pour l'instant, il est barré par Cyril Bailly, mais
et par Nicky aussi.
Sacré joueur, sacré joueur.
Voilà, une bonne recrue donc pour le Stade français. Voilà pour les poteaux. On va rendre Denis à l'océan. Bah oui, il va peut-être aller baigner maintenant.
Quelle image,
ou à l'apéro. C'est plutôt la baignade ou l'apéro à cette heure-là.
Les deux, peut-être, non ?
Alors Alors la baignade, c'est 13 degrés l'eau.
C'est l'apéro, piscine, non. Piscine, rosée piscine.
Non, l'apéro, on attend le vendredi, c'est beaucoup.
Oh là là, plus qu'un apéro par semaine, c'est pas possible, je te crois
c'est
pas.
C'est moche de vieillir.
C'est moche de mentir surtout.
Non, je mens pas.
Ou c'est la mémoire.
Merci les garçons, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Entre les Poteaux.